Les fiançailles de Marie. Les fiançailles de la très sainte Vierge. Il y avait environ une douzaine d'années que Marie était au temple. Elle avait donc 15 ou peut-être même 16 ans. D'après la loi juive, c'était l'âge auquel une jeune fille pouvait se marier. Dieu avait destiné à la fille de Joachim et Anne un époux digne d'elle. Il s'appelait Joseph et exerçait l'humble profession de charpentier. Comme Marie, il appartenait à la tribu de Juda. Il descendait même aussi, malgré son humble condition, de la famille royale de Juda, de laquelle, vous vous en souvenez, était issue Marie. Aussi simple que pieux et vertueux, il allait avoir l'incomparable honneur de devenir le virginal époux de la bienheureuse Vierge Marie et le père adoptif de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel honneur ! Quel honneur pour Saint Joseph ! Saint Joseph est vraiment un très grand saint, nous n'y pensons pas suffisamment. Grand Saint Joseph ! Mais ici, une question vient tout naturellement sur nos lèvres. Comment la Sainte Vierge, qui s'était consacrée au bon Dieu, pouvait-elle accepter de s'engager dans l'état du mariage? Elle avait dû faire, comme le font aujourd'hui les religieux et les religieuses, le vœu qu'on appelle vœu de virginité ou de chasteté perpétuelle. Sans doute, Marie avait fait ce vœu. Sans doute, elle avait promis à Dieu d'être tout entière à son service. Mais il n'est pas douteux que ce ne soit le bon Dieu lui-même qui lui ait dit de prendre Joseph pour époux. Et le bon Dieu avait de profondes raisons de lui donner cet ordre. Il voulait qu'elle eût sur la terre un protecteur et un soutien. Il voulait aussi que le divin enfant qui allait naître d'elle trouvât à sa venue en ce monde un père adoptif pour le protéger lui aussi, et aussi pour subvenir à tous ses besoins. C'est pour ça qu'on appelle Saint Joseph le père nourricier de l'enfant Jésus. Enfin, il voulait ce Dieu très sage que Marie, modèle déjà des vierges et de toutes les âmes consacrées à son service, devint encore le modèle des épouses chrétiennes. Puis il connaissait la vertu admirable de Saint Joseph et savait que ce saint époux n'empêcherait pas Marie d'être tout à son service et au service de son divin fils. Ce fut donc Dieu lui-même qui donna à Marie l'ordre de s'unir à Joseph par les liens sacrés du mariage. Ne doutons pas non plus qu'il ne l'ait assuré en même temps qu'elle n'avait rien à craindre. Rien à craindre de celui auquel elle allait engager sa vie. Marie obéit simplement et se laissa fiancer à Saint Joseph, en attendant de s'unir à lui par les saints liens du mariage. Quels enseignements devons-nous tirer des fiançailles de la très sainte Vierge avec Saint Joseph? Ces enseignements sont nombreux. Laissez-moi vous dire un mot du principal d'entre eux. Cet enseignement, c'est qu'en toute chose, mais plus particulièrement dans ce qui concerne le choix d'un état, il faut avant tout chercher à connaître la volonté du bon Dieu. Et il est évident que la Sainte Vierge a demandé au bon Dieu de lui faire comprendre quelle était sa volonté. La présentation de Marie au temple nous a fait penser tout naturellement à l'état sacerdotal et à l'état religieux. La Sainte Vierge allait se le donner au bon Dieu. elle allait se consacrer au bon Dieu le jour de la présentation. Et le mariage de la Vierge Marie nous fait penser à l'état du mariage, état moins saint et moins heureux que les deux autres, mais saint et heureux tout de même quand on y est appelé par Dieu et qu'on y vit selon sa loi sainte. Vers lequel de ces deux états vous sentirez-vous appelé un jour, ou peut-être vous sentez-vous appelé déjà? Je n'en sais rien. Mais ce que je sais bien, mes enfants, c'est que si vous voulez être heureux ici-bas et assurer votre salut éternel, vous devez chercher ici-bas, par la prière et en demandant conseil, en particulier à votre confesseur, à connaître la volonté du bon Dieu touchant votre avenir. Et quand vous connaîtrez cette volonté adorable, suivez-la malgré toutes les difficultés, tous les obstacles. Alors, si l'on pense que le bon Dieu veut que l'on soit religieux ou prêtre, religieuse, eh bien, on en parle à son confesseur, on lui demande conseil. Et on suit ses conseils, bien entendu. Et après, on en parle à ses parents, on le dit. Ou, si vous voulez, vous en parlez à vos parents avant, si vos parents sont bien, acceptent bien la chose. Parce que vos parents acceptant bien la chose, eh bien, ils vont vous permettre, ils vont vous dire, va en parler au prêtre. Mais vous savez, il y a parfois des enfants dont les parents ne sont pas contents qu'ils aient la vocation. Donc, les enfants doivent lutter et se défendre tout seuls. Ils s'arrangent avec le prêtre et malheureusement, ils ne peuvent pas partager leurs sentiments avec leurs parents. Donc, les pauvres enfants, j'espère que vous n'en ferez jamais partie. Et que si un jour vous avez la vocation, j'espère bien que vos parents seront tout à fait heureux de votre choix. Et c'est pour vous le bonheur et le salut si vous pouvez répondre à cet appel du bon Dieu. Appel pour la vie religieuse, appel pour la vie du mariage, le principal, c'est de faire la volonté de Dieu, comme d'habitude, toujours la volonté de Dieu. Alors, nous allons voir maintenant comment Saint Joseph est devenu l'époux de Marie. Nous ne savons pas au juste comment s'est fait le mariage de la très sainte Vierge. Voici du moins ce que nous en rapporte une très ancienne, très pieuse et très belle tradition. Ce que l'on appelait la dédicace du Temple était une des grandes fêtes religieuses des Juifs. On la célébrait chaque année au mois de décembre. Se rappelait la date où le temple avait été consacré à Dieu et chaque année on renouvelait cette fête. Or, cette année-là, qui était la 15e ou la 16e de l'âge de Marie, le grand prêtre pensa que le moment était venu de choisir un époux à la sainte enfant. Il convoqua donc les princes du peuple, les docteurs de la loi et les plus proches parents de la Vierge Marie afin de leur parler de cette grave affaire. L'assemblée décida d'abord qu'avant de prendre une décision, il importait de consulter le Seigneur. Très bien, vous souvenez-vous de cela. On consulte toujours le bon Dieu pour avoir la lumière avant de prendre une décision. L'assemblée décida d'abord qu'avant de prendre... On se mit donc en prière. Tout à coup, une voix se fit entendre qui semblait venir ou de l'autel ou du ciel et prononça ces paroles. Il est temps que s'accomplisse l'oracle d'Isaïe disant « Il sortira une tige de la racine de Jessé et une fleur s'élèvera de cette tige. » Cette tige devant sortir de la racine de Jessé, c'est, vous l'avez deviné, la très sainte Vierge Marie, descendante de David et par conséquent de Jessé, ancêtre de David. La fleur qui doit s'élever de la tige, eh bien, c'est Jésus, vous l'avez deviné, le Fils de Dieu, et le Fils de la Vierge Marie. L'oracle d'Isaïe, c'est la prophétie par laquelle Isaïe a annoncé plusieurs siècles à l'avance la venue de Marie en ce monde et la naissance de Jésus. Et la voix ajouta que tous les membres de la famille de David déposent une branche d'amandier dans le temple. Celui dont la baguette sera trouvée fleurie et sur lequel l'Esprit de Dieu viendra se reposer sous la forme d'une colombe deviendra l'époux de la Vierge. Ceci n'est pas dans l'Évangile, c'est-à-dire on n'est pas obligé de le croire deux fois. C'est une tradition qui est racontée. La voix céleste n'avait parlé que de la famille de David, parce que, selon la loi, c'était dans cette famille, la première de Juda et la sienne, que Marie devait se chercher un époux. Elle ne devait pas changer de famille. C'était donc la famille de Juda qui devait lui donner son époux. On annonça donc dans tout le pays de Juda l'ordre du Seigneur. Tous les jeunes gens de la famille de David accoururent et déposèrent une baguette d'amandier dans le temple, près d'un autel qu'on appelait l'autel du propitiatoire. Ensuite, on offrit des sacrifices et on se mit en prière pour que Dieu, qui avait autrefois fait fleurir la gerbe d'Aaron en présence du Pharaon et d'Égypte, renouvela ce miracle en faveur du futur époux de Marie. Le lendemain, lorsqu'on revint au temple, aucune branche n'avait fleuri. Le grand prêtre se mit de nouveau en prière et il apprit du Seigneur qu'un membre de la famille de David, nommé Joseph, homme juste et craignant Dieu, mais très pauvre et très humble, n'avait pas osé joindre sa baguette à celle des autres prétendants. Saint Joseph était tellement humble qu'il n'a pas osé prétendre devenir l'époux de la Sainte Vierge. Encore une fois, ce n'est pas vérité d'évangile, ce que je vous lis là. C'est une tradition qui s'est passée de bouche à oreille. On se mit à sa recherche, à la recherche de Joseph, et on le découvrit, et on le força d'apporter, lui aussi, la baguette d'amandier demandée par Dieu. Le lendemain, la baguette déposée par Saint Joseph était toute couverte de belles fleurs, et une blanche colombe descendant du ciel vint effleurer de son aile la baguette fleurie, puis alla se reposer sur la tête de l'humble Joseph. Celui-ci était donc bien l'élu de Dieu, celui que le Tout-Puissant avait de toute éternité destiné pour époux à sa fille bien-aimée. Il n'y avait plus qu'à célébrer les fiançailles de Joseph et de Marie. Si ceci n'est pas de foi, c'est tout à fait possible. Nous pouvons bien l'imaginer. Dieu a fait tant de miracles au niveau des saints qu'il pouvait bien en faire un aussi beau pour Saint Joseph, n'est-ce pas ?